à Rencontre spirituelle aujourd'hui, il serait question d'un des auteurs spirituels les plus marquants de toute l'histoire de l'Église, Saint Jean Climaque, mais qui est oublié aujourd'hui. Climaque, C-A-L-I, M-A-Q-E, Saint Jean Climaque, oh, il est mort il y a bien longtemps, en 649, imaginez. Il était abbé d'un fameux couvent, Sainte-Catherine, là, du Mont-Sinaï. On voit ça souvent sur des photos à la télévision. Et plusieurs d'entre vous qui sont allés en Israël ont dû aboutir au couvent Sainte-Catherine, où il y a toujours des moines. Il a été abbé de ce monastère-là. Puis il a écrit un livre en particulier qui s'appelle « L'échelle sainte ». Ça porte d'autres noms, mais en disant « L'échelle sainte », et c'est toujours publié. Moi, j'ai acheté une publication faite en 1978 lors d'un passage dans un monastère de Trappistes en France à l'abbaye de Bellefontaine qui a fondé notre abbaye d'Oka, des Trappistes d'Oka. Et c'est un livre que j'ai appris à connaître quand j'étais novice à Saint-Benoît-du-Lac au début des années 40 et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Et c'est le livre qui était le plus lu, comme l'Imitation de Jésus-Christ a été le plus lu. Jusqu'à tout récemment, il y a eu tellement de changements dans la spiritualité des laïcs, grâce en particulier à Saint-François de Sales il y a déjà quelques siècles, et puis à bien d'autres. Depuis, évidemment, des milliers de livres sont parus pour nous enseigner à nous laïcs comment atteindre le bonheur ici-bas par la joie d'être chrétien. Et dans l'échelle sainte, eh bien ça c'est un livre qui est dédié surtout aux moines, parce que Saint Jean Climaque, c'était, comme je vous ai dit, abbé d'un grand monastère. On dit des choses dans bien des livres au sujet de cet auteur, des choses extraordinaires, vous savez. Comme Poura dit, un auteur très important qui a écrit quatre gros volumes sur la spiritualité chrétienne, quoi. Mais il raconte que la théologie ascétique, c'est-à-dire le théologien qui enseigne comment se contrôler, comment faire, comment agir pour arriver en haut de l'échelle, parce qu'il appelle son livre l'échelle sainte, le théologien ascétique oriental, ça veut dire de l'Orient chrétien, là, pas oriental pour la Chine, évidemment, ça n'a rien à voir. Le plus important de la période où il a vécu, vers l'an 600, qui a joui d'une grande réputation et a exercé une réelle influence sur les siècles futurs, oui, ça a duré pendant 1000 ans au moins, c'est Saint Jean Climaque. Il doit ce curieux surnom au titre de son célèbre ouvrage, L'échelle, qui en grec se dit, ceux qui connaissent le grec, climax. Oui, kappa, lambda, ypsilon, mu, alpha et sigma. Climax. L'échelle qui conduit au ciel. Oui, l'échelle qui conduit au ciel. Comment ça? D'où ça vient cette idée? On peut imaginer d'où ça vient. Hein? Vous souvenez, on nous racontait ça dans l'Histoire sainte. Et je pense que les jeunes aussi, il y en a qui connaissent ça. C'est dans la Genèse, au chapitre 28, verset 10. Je vous lis pas tout le texte, juste quelques lignes. Les questions de Jacob. On dit qu'il quitte Beersheba. Vous êtes peut-être allé à Beersheba en allant en Israël, n'est-ce pas, pour se rendre à Aram. Puis là, Jacob s'installe pour la nuit. Bon, il s'installe là, à Aram, où le coucher du soleil le surprit à un moment donné. Puis il prend une pierre pour s'en servir comme oreiller, il met ça sous sa tête. Puis il se couche à cet endroit. C'est ce que dit le texte, hein, de la Genèse. Mais il dit pas que j'en ai fait pour un oreiller, c'est moi qui ai ajouté ça, là. Il fit un rêve, une échelle était dressée sur la terre, un beau rêve, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel. Quel beau rêve, j'aimerais ça faire ce rêve. Des anges de Dieu y montaient et descendaient, ça devait être beau. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père, Abraham. » Mais oui, le grand-père de Jacob. « Et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, à Haran, je la donnerai à toi et à tes descendants, et tes descendants seront si nombreux que les grains de poussière du sol. » C'est un moment d'une alliance de Dieu avec son peuple, le peuple juif, qui nous a donné Jésus, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est notre joie. Alors, lui voit donc Jacob cette belle échelle, l'échelle qui monte au ciel. Et Saint Jean Climac a été surnommé le scolastique. Que ça veut dire, le scolastique? Le maître de l'école, le maître de l'enseignement, le maître de ce qu'il faut apprendre pour trouver le bonheur. C'est à cause de ça aussi, de sa grande culture. Il avait une grande culture, Saint Jean Climac. On l'appelle aussi le Sinaïte, évidemment, à cause de son séjour sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que c'est ça, le mont Sinaï? Vous savez tout ça, c'est là où Moïse a reçu les commandements de Dieu, c'est-à-dire les grands conseils de bonheur, que si on les observe pas, on peut pas trouver le bonheur. Si on n'écoute pas ces beaux conseils qui viennent du cœur de Dieu, qu'on appelle souvent les commandements, j'aime pas ça le mot les commandements, c'est pas des commandements, c'est des conseils absolus de bonheur. C'est dit, si tu te mets la main sur le rond brûlant de la cuisinière, tu vas te brûler la main. C'est un conseil de bonheur, ce qu'on donne à nos enfants. Conseil absolu, parce que autrement, ça marche pas. Mais il est plus connu sous le nom de, comme je vous ai dit, de Jean Climac, à cause de son traité, qui a pour titre « L'échelle du paradis »,« L'échelle sainte », différents noms dans ce genre-là. En grec, comme je vous ai dit, « Climac », ça veut dire « échelle hein? ». Et son échelle, à lui, elle a 30 échelons. 30 degrés pour atteindre la joie et le bonheur. On ne sait pas au juste quand et où il est né. Il y en a qui placent la naissance de Saint Jean Climac, puis sa mort à certaines dates, près de l'an 649, il serait mort. On met sa naissance en 579. Alors, c'est à peu près ça, 579-649. Et les écrits qu'il a laissés, donc il a écrit au début du 7e siècle, au moment où apparaît l'islam en Arabie, c'était à la même époque. Mais les écrits qu'il a laissés, là, ça a donné à penser que Saint Jean Climac a reçu une belle éducation. Il faut qu'il ait, me semble, reçu une belle éducation, parce que c'est tellement bien fait, ça se lit, c'est un charme que de lire ça encore aujourd'hui, après plus de 1000 ans. Ses parents étaient sans doute des gens pieux, croit-on, d'après le récit de sa vie qui nous a été laissé par un moine qui s'appelait Daniel. C'est le nom de notre metteur en onde aujourd'hui, Daniel. À 16 ans, ce jeune Jean Climac va se présenter donc au Mont Sinaï, monastère Sainte-Catherine. Il veut faire l'apprentissage de la solitude. À 16 ans déjà, il est attiré. C'est un garçon qui rêve d'absolu, quoi. Puis, un peu comme ce grand saint musulman dont je vous ai parlé la semaine dernière, vendredi, Al-Alaj, qui a vécu un peu plus tard, qui est mort crucifié en l'an 922. Mais lui, Saint Jean Climac, c'est en 649 qu'il est mort. Et il accepte donc, dans le monastère, de se laisser guider par un bon vieillard qui s'appelle Martyrios. Et il consacre 4 années, donc, de 16 ans à 20 ans, à s'instruire, puis à se discipliner comme un bon jeune moine, avant de se consacrer à Dieu, en s'engageant par ce qu'on appelle la profession monastique aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était la tonsure, quoi. Ben, ça dit qu'il faisait raser les cheveux en signe d'abandon des frivolités. C'est fini, les platitudes du monde. Il rentre dans un autre cheminement, le cheminement que l'on croyait être le seul, pour ainsi dire, vers la sainteté, le cheminement monastique, car on était très centré sur la vie des moines dans ce temps-là. Et le vieux Martyrios, là, son moine, son maître, il est satisfait des progrès de son disciple. Il présente un jour un solitaire qui s'appelle Anastase, ça veut dire Pascal en fait, ça veut dire résurrection Anastase, qui va un jour devenir patriarche d'Antioche, hein, c'est pas peu de choses, patriarche d'Antioche. Et cet Anastase, et comme éclairé d'une lumière prophétique, puis il dit au maître Martyrios, « Qui croirait, mon père, qui croirait, oui, que vous auriez un jour consacré à Dieu un futur abbé du mont Sinaï ?» Et c'est ce qui va arriver. Notre saint Jean Climac va devenir abbé de ce grand monastère. Et pendant 19 ans, saint Jean Climac s'exerce à une simplicité admirable. Il pratique fidèlement une vertu bien difficile à observer, c'est l'obéissance. Il la pratique admirablement bien. À la mort de son maître, le moine Martyrios, là, il se propose d'embrasser la vie des ermites, des anachorètes, vivre seul. Ça existe encore aujourd'hui, hein? Il y a des centaines d'ermites en France. Il y en a ici au Québec quelques-uns. Il ne veut pas cependant s'y décider par lui-même. Parce que c'est pas facile, c'est une vie très difficile. Il consulte à ce sujet un autre vieillard, et cet autre vieillard accepte son projet. Alors saint Jean Climac descend alors au bas de la montagne. Bon, il a à peu près 40 ans. Au bas de la montagne du mont Sinaï, puis se retire dans la solitude, au bas de la plaine. Sa cellule est éloignée de l'église environ 2 lieues. 2 lieues, c'est 6 000, 8 kilomètres à peu près. Et les samedis et dimanches, ben, il se rend à l'église pour assister à l'office et à la messe et pour communier avec les autres solitaires, suivant la coutume des moines d'Orient qui communient le dimanche, samedi et dimanche. Puis il consacre les autres jours de la semaine, ben, successivement à la prière, au travail manuel, à la méditation. Il mange peu, mais seulement les aliments que sa profession de moine solitaire lui permet. Et Dieu lui accorde un grand don, le don d'oraison, qui est si difficile à obtenir, ce don de la prière de joie et d'amour, où, avec Dieu, on est bien, comme deux amoureux. Puis il obtient aussi celui des larmes. Qu'est-ce que c'est ça, le don des larmes? C'est un curieux don que certaines personnes ont. Ce sont pas des gens sentimentaux et un peu niais, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un don qui permet, on dirait, aux yeux de verser des larmes, mais ce sont comme des larmes de joie, et ça coule, et ça coule, et ça coule, et ça coule. Ça peut durer une demi-heure, et on sait pas pourquoi. Et ça peut être très gênant, paraît-il, pour les gens qui ont ce don. Ils sont obligés de se cacher un peu la tête dans les mains, et essayer de que ça ne paraisse pas. Et bientôt, de disciple, bien, saint Jean Climac devient maître pour enseigner l'ascétisme, pour enseigner la bonne conduite et la façon d'agir, et un surnommé nommé Moïse, ils ont des noms de l'Ancien Testament, donc un solitaire nommé Moïse lui fait demander s'il l'accepterait comme disciple, et saint Jean Climac croit bon d'accepter, de céder à cette demande qui est très insistante. Et puis, il est déjà assez âgé. Quand les moines, finalement, du mont Sinaï le choisissent pour abbé, imaginez ça. Choisi pour abbé, puis assez âgé. Alors, il doit se faire violence pour céder à leur désir, puis leur apporter ses enseignements. Et c'est alors qu'un autre Jean, l'abbé du monastère voisin de Raït ou Raïtou, qui est situé à quelques kilomètres du mont Sinaï, là, il lui écrit pour lui demander, au nom de sa communauté, puis en son propre nom, de mettre par écrit les pensées que l'Esprit de Dieu lui dicte sur la pratique des vertus. Et saint Jean Climac considère cette demande comme un ordre qui est venu du ciel. Il décide d'y répondre en esprit d'obéissance, puis il écrit à son correspondant des termes, une façon là, qui montre sa profonde humilité. Il dit, « Mauvais disciple d'un excellent peintre, j'ai seulement ébauché, moi, et marqué avec du noir là, les ombres des choses qui sont d'elles-mêmes très vives et très éclatantes. » Il parle dans un vocabulaire de peintre. C'est curieux. Hein? Puis il dit, « Je vous ai réservé, comme au premier maître et au plus éminent parmi les docteurs, le soin de mettre la dernière main à cet ouvrage est d'y ajouter des embellissements. Vous pourrez éclaircir ce qu'il y a d'obscur. » On voit saint Jean Climac est prêt à ce que son travail soit complété, puis il dit, vous pourrez supplier à tout ce qui manque dans les préceptes de cette loi spirituelle par les lumières que vous avez acquises, vous, en l'accomplissant si parfaitement. C'est ce qu'il dit à l'autre moine, le Jean de Raïtou. Et ce n'est donc pas à vous que j'adresse ce petit ouvrage, mais à ceux que Dieu a appelés à son service. On voit que ce grand abbé, ce grand sage, cet homme qui va écrire ce livre, qui va être le plus populaire pendant 1000 ans, est très humble quand il le remet terminé. A été nommé abbé du monastère après avoir été ermite vivant tout seul dans la plaine. Il gouverne le monastère pendant quelque temps, mais le monastère du Mont Sinaï, là, très fameux, qu'on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure à la télévision, dans des tas de photos, ça existe toujours des moines, là, moines byzantins. Et Saint Jean Climac retourne dans sa solitude. Et il nomme à sa place son frère, son propre frère nommé Georges, qui devient abbé à son tour, qui était solitaire de la même montagne du Mont Sinaï, qui a passé 70 ans dans la pratique de la vraie vie monastique au total. Lorsque Saint Jean Climac est arrivé à sa dernière heure, son frère Georges vient le visiter puis lui dit tout en larmes, « Et quoi, mon frère? Ne vous me laissez après vous, et ainsi, sans secours et sans assistance, parce qu'il avait bien besoin de l'assistance de Saint-Jean Climac, qui était plus savant que lui encore. Et Saint-Jean Climac lui dit, ne pleurez pas, ne vous affligez pas, mon frère. Si, parce qu'il est en train de mourir. Si j'ai quelque pouvoir auprès de Dieu, il ne se passera pas un an sans que je vous attire auprès de moi. Puis c'est exactement ça qui arrive, son frère Georges meurt en effet 10 mois après. Alors les Grecs reconnaissent évidemment Saint Jean Climac et son frère Georges et tous ces moines comme de grands personnages de leur histoire. Et c'est notre histoire parce que nous étions unis dans ce temps-là. Les deux églises étaient la même église. Et les Grecs donc célèbrent la fête de Saint Jean Climac le 30 mars parce qu'elles supposent que c'était le jour de sa mort. Nous, les Latins, on a été longtemps, pas du temps avant de connaître ce saint. Mais on trouve seulement son nom dans les martyrologes modernes, finalement. Même si on lisait son livre, à une époque, c'était à une époque où ses œuvres ont commencé vraiment à se répandre davantage en Occident. Et est extrêmement appréciée. On l'a représenté tenant une échelle. J'ai déjà vu comme ça une vieille fresque. Et c'est une allusion à son nom, Jean de l'Échelle, Jean Climac, et au titre de son ouvrage, que l'on lit, comme je vous ai dit, j'en ai acheté un exemplaire, traduit par le père Placide de Seille, et paru à l'abbaye de Bellefontaine, dans le Maine-et-Loire, près de Cholet, en France, où, c'est de là que sont partis, comme je vous ai dit au début de l'émission, les trappistes qui ont fondé Oka. Je l'ai acheté en 1978. Et c'était publié, ce livre, par les moines trappistes, avec le concours de la Fraternité orthodoxe de France, car ce monastère est prêt dans son travail des orthodoxes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a finalement dans cette échelle sainte? Ben, il y a l'échelle sainte d'abord, pour l'instruction des moines, puis l'instruction finalement des laïcs, parce que ça a beaucoup servi aux laïcs, mais aujourd'hui les laïcs ne lisent presque plus ça, c'est trop monastique. Puis il a écrit un livre au pasteur, c'est-à-dire au père abbé, ou à l'igoumène, on dit ça igoumène chez les Grecs, au lieu de abbé, pour le supérieur d'un monastère, un igoumène. Et puis, c'est un travail plus court, ça. Il résume les devoirs des supérieurs des monastères. Bon. Jean Climac a donc écrit son échelle sainte à la demande d'un de ses admirateurs et amis, comme je vous ai dit, le supérieur du couvent de Raïtou, qui était pas loin, et qui s'appelait Jean, comme lui. D'ailleurs, les lettres, ça commence très drôle. Jean à Jean, salut. On dirait que c'est deux gars d'aujourd'hui qui s'écrivent, hein? Jean à Jean, salut. ça fait très moderne. Puis pourtant, c'est écrit 1300 ans et davantage, 1400 ans. Alors, ce deuxième Jean le demande, comme je vous ai dit, d'écrire sur de nouvelles tables de Sinaï. C'est ce qu'il dit dans sa lettre. comme si le livre, l'échelle sainte, va être comme des commandements de Dieu, les tables. Vous savez, les tables que Moïse a reçues, dit-on, sur le mont Sinaï, là, avec les 10 commandements. Parce qu'il veut avoir des bons préceptes de la vie religieuse, puis il veut les proposer à ceux qui s'efforcent d'aller au ciel. Il veut les proposer comme si c'était des degrés de l'échelle, des échelons, quoi, par laquelle ils vont pouvoir monter dans ce bienheureux séjour du bonheur avec Dieu. Et Saint Jean Climac accepte donc, et puis par obéissance, comme je vous ai dit. Hein. L'obéissance, écrit-il, étant, au dire des anciens si instruits des choses divines, la vertu qui nous fait accomplir sans retard l'ordre donné, bien qu'il soit au-dessus de nos forces. Hein. Dans les monastères, celui de l'obéissance va jusqu'à ce que, dès que le premier son de la cloche retentit, on laisse son stylo là, si on est en train d'écrire, on laisse le livre qu'on est en train de lire au milieu d'une phrase, et on se lève et on répond à la cloche qui nous appelle habituellement à aller prier à l'église abbatiale ou dans la chapelle, quand c'est un petit prieuré. Hein. L'échelle donc, l'échelle sainte, le livre, comprend 30 degrés. Pourquoi? C'est en rapport avec les 30 années de la vie cachée de Jésus. Il a monté les échelons, Jésus, pendant 30 ans, et après ça, il s'est révélé au monde comme le Messie, le maître de la matière, puisqu'il a fait des miracles sans nombre, et maître de la matière au point de prendre du pain et du vin et de le transformer en son corps et en son sang. Maître de la matière de son propre corps en ressuscitant. Maître de la matière et du temps en jouissant du privilège de l'ascension. Et de la transfiguration aussi, il s'est transfiguré devant ses amis. Hein. Et chaque degré, donc, chaque échelon, là, forme une espèce de chapitre. Il y en a qui sont assez longs dans l'ouvrage, très intéressant. Ça traite d'une vertu à acquérir ou d'un vice à combattre. Et les sujets étudiés sont disposés suivant une espèce de progression, évidemment. Alors, ce qui est propre aux débutants, ben, c'est placé, c'est sûr, dans les premiers chapitres. Hein, les débutants sont là. La doctrine se déroule suivant un développement graduel. Puis, le perfectionnement progressif aussi de la vie spirituelle et monastique, on voit ça, on parcourt tout ça. Puis, au sommet de l'échelle, se trouvent les questions qui intéressent les âmes les plus élevées dans la sainteté. On peut dire que Saint Jean Climac compte donc 30 degrés dans le développement de la vie chrétienne, et la perfection ne serait atteinte qu'au 30e. Et ce nombre est d'origine mystique, comme je vous ai dit. Il est dû à cette préoccupation bien pieuse de faire concorder le développement de notre vie spirituelle avec le développement de la vie mortelle du Sauveur Jésus. Saint Jean Climac résume, comme on peut s'y attendre, la doctrine spirituelle de ces devanciers, hein, qui ont écrit là-dessus. Mais il fait un travail, lui, de synthèse. Il réussit à faire un travail très, très intelligent. On voit qu'il y a une grande culture. Il condense ce qui a déjà été écrit avant. Et il a eu un succès, son livre a un succès, je vous le répète, immense. Mais c'est pas un auteur sans personnalité, s'il va puiser ailleurs. Hein. Il sait apprécier avec justesse ce qu'ont pensé les autres auteurs, les plus anciens. Puis il ajoute des vues nouvelles, des façons très, très spéciales. Alors les 30 degrés de l'échelle mystique, par laquelle s'opère donc l'ascension de l'âme vers Dieu, ça peut se répartir en 3 étapes d'inégale longueur. Il y a d'abord le détachement de l'âme de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui gnigne pour mener la vie monastique. Et puis, il y a la lutte contre les vices, puis l'acquisition évidemment des vertus. Puis finalement, ben il y a la vie vraiment érémitique, la vie de solitaire, la vie des seuls. Hein. J'avais déjà interviewé un ermite comme ça, rencontre, vous l'aviez vu peut-être, dont Adalbert de Vogüé, ermite à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, qui était héritier d'une des plus grandes fortunes de France. La vie érémitique, donc la prière, puis l'union à Dieu par la charité. Et c'est en franchissant donc la première étape que l'âme arrive à renoncer aux biens de cette terre. Elle commence par abandonner la vanité des choses profanes. Elle fuit le monde. Et puis elle se détache de toute affection aux richesses, au bien-être puis aux honneurs. Et l'âme se détache aussi de sa famille et de tout ce qui pourrait la distraire de Dieu. Puis il écrit, « Celui qui aime Dieu de tout son cœur, qui aspire au ciel de toute son âme, qui lutte violemment pour se corriger de ses fautes, qui pense sans cesse au jugement futur puis aux supplices éternels, qui vit constamment dans la crainte de Dieu puis dans l'attente de la belle mort, Celui-là, non seulement rejette loin de lui tout désir de ce qui est terrestre, mais il poursuit encore de sa haine ce qui est mauvais. Et dénué de tout et libre de tout souci, il suit ardemment le Christ en tenant les yeux fixés vers le ciel, d'où il attend le secours selon la parole du prophète « Mon âme s'est attachée à vous, mon Dieu », c'est dans le psaume 62. Et aujourd'hui, il est question d'un moine qui a vécu il y a bien longtemps, mais c'est très intéressant parce que ça rejoint des préoccupations d'un monde actuel. Je vous ai dit que ce Jean Climac, Saint Jean Climac, a écrit l'Échelle Sainte et qu'au début, il conseille, c'est le titre du premier chapitre, n'est-ce pas, c'est du renoncement, quoi, à l'égard de la vie frivole du monde. Or, vient de paraître un livre qui n'est pas écrit du tout par un chrétien et qui fait sensation en France, c'est aux éditions du Seuil, ça s'appelle « La tyrannie du plaisir ». Vous croyez, vous comprenez, la tyrannie du plaisir, la frivolité. C'est de Jean-Claude Guillebeau. Je vous le conseille, il a été conseillé d'ailleurs dans L'Homme Nouveau, et à ma grande surprise, je l'ai en main. C'est un livre vraiment où il y a des choses qui sont pas toujours très catholiques, mais c'est... Il cite, mettons, Roland Barthes à un moment donné, pour dire que le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. Et Roland Barthes, c'est vraiment un des penseurs les plus estimés dans un monde très actuel. Hein? Et dans une entrevue que Jean-Claude Guillebeau, Guillebeau, ça s'appelle G-U-I, 2-L-E-B, comme dans Beaugrand, B-A-U-D, Guillebeau, La tyrannie du plaisir, aux éditions du Seuil, ça vient de paraître, c'est un best-seller. Hein? Il raconte des choses comme... Notre monde est habité par la peur. Et cette peur vient de ce que notre société a perdu ses repères moraux, ou plutôt ses codes sociaux. Quand une société perd ses repères, lorsque les valeurs partagées, notamment une définition élémentaire du bien et du mal, s'évanouissent, mais c'est le code pénal qui les remplace. Et les gens n'ont plus de notion de ce que c'est que le bien et le mal. Or, Saint Jean Climac, il montre que la niaiserie, la tyrannie du plaisir, comme c'est le titre de ce gros livre de Jean-Claude Guillebeau aux éditions du Seuil, ben, c'est un esclavage épouvantable, cette tyrannie du plaisir. Il faut avoir du sexe, il faut performer, il faut avoir des richesses, il faut réussir, il faut avoir du succès, il faut chanter mieux que les autres, il faut être Céline Dion, il faut être ceci, il faut être cela. Sans ça, vous êtes personne. Mais comme se dit Saint Jean Climac, le chrétien qui fuit ainsi le monde et abandonne... Évidemment, c'est dans la perspective monastique. Nous, on peut l'adapter à notre vie de laïc, dans le monde, engagé, préoccupé de questions sociales, qui s'intéresse à développement épais dont il est question sur les ondes de Radio Ville-Marie ces jours-ci à cause de la quête qui a eu lieu hier à l'église. Développement épais, qui est cet organisme établi par nos évêques pour aider les plus pauvres à travers le monde, établir la paix du Christ. Eh bien, faut s'engager aussi politiquement, etc., dans la mesure de nos moyens. Ben, le chrétien, lui, qui fuit le monde et qui se fait moine et qui abandonne tout ce qui est périssable pour entrer au monastère et s'adonner à la piété, il entreprend un voyage en pays étranger. J'ai goûté à ça, j'ai fait ça quand j'ai eu 18 ans et c'était les deux plus belles années de ma vie. Mais je ne dis pas que je vais vivre comme un moine dans le monde. Non, je ne vis pas comme un moine dans le monde. Et le voyageur, donc, qui entreprend ce voyage des moines, est un étranger dans la région qu'il parcourt. Il ne s'attache à rien de ce qu'il voit. Et le futur moine est aussi un étranger dans le monde. Il ignore et dédaigne tout ce qui ne l'unit pas à Dieu. Il se détachera totalement du monde s'il ne pense jamais plus aux choses mondaines. Mais, vous savez que dans les monastères, on prie pour le monde. On pense au monde. Et souvent, on est d'excellents conseillers. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont voir des moniales, des carmélites, et qui se font donner d'excellents conseils. J'en connais. Ici à Montréal. Mais d'après Saint Jean Climac, quand le novice se voit privé de tout et séparé de sa famille, bien évidemment que le démon ne manque pas de lui causer une tentation fort pénible. Que connaissent bien souvent aussi dans le monde les nouveaux convertis. Et, connaissez les fameuses tentations de Saint Antoine. Je vous ai déjà parlé de Saint Antoine, fondateur des moines. Dans les réflexions de la journée ou souvent dans les insomnies de la nuit, là. Tout ce qui a été abandonné apparaît avec une clarté merveilleuse. Oh, là, tout à coup, les biens, puis les plaisirs qu'on a quittés. Puis là, on voit nos parents qui ont pleuré, qui ont été laissés peut-être dans le besoin, puis auxquels on pourra pas sortir du monastère pour aller leur fermer les yeux au moment de la mort. Puis en même temps, la vie nouvelle que l'on embrasse avec toutes ses privations puis ses austérités se montre comme une folie, hein? Une espèce de fardeau qu'on ne pourra porter, c'est ce que décrit Saint Jean Climat, qui est pas fou, hein? Alors il dit que le novice, le jeune, là, il doit prévoir cette crise d'âme, qui suit d'ordinaire la séparation d'avec le monde afin de la conjurer. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Mais le jeune de 18-20 ans qui décide tout à coup de faire de sa vie quelque chose qui a du bon sens, il est obligé de quitter ses amis avec lesquels il fumait un peu de pote ou qui sortait puis allait au foufoune électrique ou bien... Ils allaient, je sais pas quoi, au stade Molson, et puis pas voir des belles parties de hockey, puis après ça, ben, ils prenaient un peu trop de bière, mais ils avaient du plaisir, ils avaient une fraternité, ils avaient des amis. Et peut-être parce que ces amis-là le conduisaient vers autre chose qui n'était pas conforme avec l'esprit de prière qu'il veut avoir, et le désir qu'il a de rendre service, mettons, aux malades de Saint-Charles Borromée ou d'ailleurs, et puis... de vraiment vivre une vie qui aurait un peu plus de bon sens. Mais dans ses rêves, la nuit, il pense à tout ça, hein. Mais la fuite du monde, là, puis l'entier détachement des biens terrestres que font les moines, sont deux vertus avec lesquelles l'âme, comme avec deux ailes d'or, s'élève vers le ciel, c'est ce que dit Saint Jean Climac. Hein. Et elle prépare à l'obéissance religieuse, dont Saint Jean Climac fait un éloge en termes enthousiastes. Hein. L'obéissance religieuse. L'obéissance... c'est cette abdication complète de la volonté propre, dit-il, qui fait voyager ici-bas sans périr et mourir sans crainte, ajoute-t-il, car il nous délivre de la responsabilité de nos décisions. Et l'homme, obéissant, ressemble au voyageur que l'on conduit, puis qui dort en marchant. Qui dort en marchant. C'est un peu étrange, ces expressions d'anciennes. Il écrit, « Nos pères disaient que la psalmodie est notre arme. » Psalmodie, c'est la récitation des psaumes et la prière des psaumes, écrit il y a 2500 ans. Nos pères disaient que la psalmodie est notre arme, la prière notre rempart, les larmes que nous répandons, nos bains, se baigner dans ces larmes, les expressions, c'est surréaliste, hein? Salvador Dali n'aurait pas pensé à ça, je pense. Mais que l'obéissance sainte, pardon, est le témoignage de notre fidélité. Sans laquelle personne ne verra Dieu, dit Saint Jean Climac. Le long chapitre consacré à l'obéissance, d'ailleurs, contient un bon nombre de traits qui sont tirés de la vie des anciens moines, que l'on retrouve dans toutes sortes de livres, les vies des pères du désert. Et ces hommes poussaient la pratique de cette vertu jusqu'à la dernière limite. Hein. Mettons, planter un bout de bois jusqu'à temps qu'il fleurisse en l'arrosant. Des niaiseries, moi, j'ai toujours détesté ces histoires d'obéissance idiote. Et à propos de l'obéissance, Saint Jean Climac traite de la confession, qu'il considère comme un excellent moyen de sanctification. Ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation, qui est si peu pratiqué, il y a des confessionnaux, mais ils ne servent pas à grand-chose aujourd'hui. Mais si vous voulez vous confesser, allez à l'oratoire, allez chez les Jésuites au Jésus, allez chez les Franciscains sur le boulevard René-Lévesque, allez chez les Pères du Saint-Sacrement au métro Mont-Royal. Il y a des confesseurs, puis il y en a de très bons, hein, croyez-moi. Alors, Saint Jean Climac s'étend avec complaisance sur les avantages de la confession, son efficacité. Il se faisait secrètement à un juge expérimenté. Et la sincérité, l'humilité, puis la douleur, mais ça doit accompagner, dit-il, l'aveu des fautes. Pour en obtenir le pardon, il faut jamais se laisser arrêter par la honte ou la confusion, c'est ridicule. Peu importe qu'on connaisse le prêtre ou qu'on ne le connaisse pas, il y en a entendu bien d'autres. Puis de toute façon, c'est un prêtre l'homme du secret total. Jamais il ne révélera ce qu'il a entendu. Et Saint Jean Climac écrit, « Découvre et montre tes blessures au médecin. » C'est ça, hein? C'est le Christ qui est là, en la personne du prêtre, qui est le médecin des âmes. Découvre et montre tes blessures au médecin. Et mettant la honte sous tes pieds, dis, voilà ma blessure, Père. Voilà ma plaie. Voilà le fruit de ma mollesse. Nul autre que moi n'en est responsable. C'est bien moi qui suis coupable. Ce n'est ni un homme, ni un esprit, ni un corps, ni quoi que ce soit d'autre, mais c'est ma propre négligence qui m'a fait pécher. Alors, Seigneur Climac ajoute, quand tu viens faire ta confession, soit par ton attitude puis ta physionomie comme un condamné. Bon, la tête penchée vers la terre. Et si tu peux, arrose de tes larmes les pieds de ton juge et de ton médecin comme si c'était ceux du Christ. Un peu, et ça rappelle Marie-Madeleine, hein, qui se jette aux pieds du Christ et qui pleure ses péchés quand il est à table, Jésus. Alors, non seulement la confession nous obtient le pardon, dit-il, de nos fautes, mais elle est aussi un frein. Un frein, oui, qui nous retient sur la pente de nos vices qui nous déchirent, qui nous enchaînent, qui nous rendent lourds ou qui nous mettent des boulets aux pieds. Et puis, la confession, mais ça nous empêche d'y retomber. Ben oui. Les démons, alors, s'efforcent de nous en détourner, dit-il, ou du moins de nous porter à le mal faire en rejetant sur autrui la responsabilité de nos fautes. Et celui qui reçoit la confession de ses frères, là, le confesseur, devrait être plein de bonté et de condescendance pour eux. Et Saint Jean Climac dit, il est un père. On appelait aussitôt les confesseurs les pères spirituels. Il est un juge, il est un médecin, à qui il faut découvrir les plaies de l'âme. Il devra être par-dessus tout, dit-il, un homme spirituel. Alors rien n'est plus capable d'inspirer au pécheur le repentir de ses fautes que la pensée de la mort. C'est pourquoi il en est parlé au sixième degré de l'échelle sainte, c'est toujours le livre que je vous explique un peu là, et la continuelle méditation de la mort. Puis des incertitudes qui entourent sa venue, et le meilleur stimulant du religieux dans la lutte contre les vices et la poursuite des vertus. Mais c'est la même chose pour nous, hein. Savez-vous que c'est ce que Mozart pratiquait, hein? Saviez-vous ça? Oui, j'ai un ami qui m'a envoyé un petit texte de Mozart paru dans un semainier paroissial, j'ai l'impression. Et c'est une lettre de Mozart à son père. Ça date du 4 avril 1787, et Mozart écrit que c'est la clé du vrai bonheur, hein, comme la mort, pour parler vrai, est le but de notre vie. Depuis quelques années, je me suis familiarisé, mon père, papa, là, avec cet ami fidèle de l'homme. Son approche me terrifie encore, mais je la trouve consolante. Et je remercie Dieu de m'avoir permis de voir en elle la clé du vrai bonheur, la clé du vrai bonheur. Et Mozart finit en disant, « Je ne me couche jamais le soir sans penser que je ne verrai peut-être pas un autre jour. » Quant à Saint Jean Climac, lui, il écrit au sixième degré, numéro 26, « Il est impossible, tout à fait impossible, de passer pieusement le jour présent si nous ne le considérons pas comme le dernier de notre vie. Il est vraiment étonnant de constater que les païens eux-mêmes ont affirmé quelque chose de semblable. » Puisqu'ils définissent la philosophie comme étant la méditation de la mort. C'est les paroles de Saint Jean Climac, je vous rappelle, qui écrit ça vers l'an 625 environ. Alors donc, le septième degré, le dernier de la purification du novice, concerne l'affliction de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? La componction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, cette espèce de sentiment un peu de tristesse, oh, c'est pas grave, pas une grosse tristesse, mais une certaine tristesse profonde quand même, qui vient de Dieu, puis qui engendre finalement la joie spirituelle. Comment ça? C'est ce que les auteurs spirituels modernes appellent l'esprit de pénitence. C'est une tristesse de l'âme, puis une douceur, qui nous détache des biens créés. Ça nous fait pleurer nos fautes, nous porte à accepter en esprit de réparation les épreuves, puis les peines de la vie. On peut se corriger avec des épreuves. Hein? Puis chez les débutants, mais cette disposition de l'âme, mais ça les amène évidemment au jeûne. Arrêter de manger des chips et toutes sortes de cochonneries. Tout à coup, ou de se jeter sur des biscuits, puis de vider des boîtes de biscuits comme des déchaînés. Non. On arrive à un contrôle. Au silence, aussi. Savoir garder le silence, arrêter tout, faire le calme. Et surtout, la grande chose, ça permet d'arriver ce sentiment-là à l'oubli des injures, ce qui est si difficile. On voit des gens de 80 ans qui n'oublient pas les injures, ils les traînent avec eux depuis 60 ans. Incroyable. Ça inspire, ça aussi, au parfait, les sentiments de profonde humilité, puis ça leur donne la soif des... Je dis même la soif des affronts. Être insulté, tout ça. Bah, finalement. Les contrariétés, bah, ça n'a pas d'importance. Jésus en a enduré tellement, les saints en ont enduré tellement, les chrétiens en ont enduré tellement, le pape Jean-Paul II en a enduré, les évêques, les prêtres, les laïcs, les catholiques martyrisés, les gens partout à la surface de la terre actuellement qui, au nom de l'Évangile, sont contrariés, ont des affronts et sont même tués. Et les larmes qu'elle fait répandre, ce sentiment, cette chose-là nous lave des souillures que nous contractons, dit Saint Jean Climac. Et elle rend de nos prières agréables à Dieu. Saint Jean Climac traite longuement ici du don des larmes dont je vous ai parlé, puis des signes auxquels on le reconnaît, puis des heureux effets qu'il produit. Alors on va retourner, avant d'arriver du 8e au 26e degré très rapidement, qui sont dans des domaines plus avancés, là, plus difficiles à traiter. Alors nous passons maintenant, toujours dans l'échelle sainte de Saint Jean Climac, ce livre très populaire, très fameux pendant des siècles. On passe du 8e au 26e degré de l'échelle. Et c'est là que se placent les vices contre lesquels il faut lutter, puis les vertus qu'on doit acquérir. Bon, je passe rapidement là-dessus, il y a la colère et la douceur. Hein. N'oubliez des injures dont je vous ai parlé. La médisance, ah, ça c'est la peste. Puis il y a le silence qui est une merveille, le mensonge. Puis le dégoût, puis le découragement souvent. Hein, quand on essaie de vivre comme des bons chrétiens, des vrais, on a des moments de dégoût. On se dit, ah, je suis plus capable. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'avais le goût de quitter ces émissions, de cesser de les faire. Je n'en pouvais plus, je sais pas qu'est-ce qui m'habitait. C'était comme si le démon s'était mis entre mon micro et moi. Comme la gourmandise aussi, c'est une horreur, ça, c'est de niaiseux. Puis la lecture et la chasteté, bien, finalement, c'est dans son livre, là, Jean-Claude Guibaud, dont je vous ai parlé, livre qui vient de paraître au Seuil, gros bouquin, La tyrannie du plaisir. Cette tyrannie qui fait que les gens se pensent obligés d'habiter la lecture et de rejeter la chasteté. Et puis, ce chapitre d'ailleurs sur la chasteté dans Saint Jean Climac, c'est remarquable par la justesse des observations, c'est curieux, déjà, après tant de temps, il y a une finesse de l'analyse des tentations, puis de leurs causes, puis il apporte des conseils sûrs, qui sont donnés pour y résister, c'est surprenant, après tant de temps, on reste étonné quand on lit ça. La chasteté a un autre avantage, dit-il, celui de faire connaître Dieu. Vous direz, ben, qu'est-ce que ça a à voir? Mais oui. Mais oui, parce que sans elle, dit-il, on peut pas être un disciple de la, ce qu'il appelle la théologie, la connaissance de Dieu. Théos, ça veut dire Dieu. Vient ensuite, l'amour de l'argent, puis de surtout l'amour de la non-possession. Aimer, ne rien posséder. Aimer, donner. Oui. Puis l'endurcissement de l'âme, puis il y a le sommeil aussi qu'il faut vaincre pour vaincre la prière le soir. Des fois on s'endort, on sait qu'il faut prier, mais il faut prier. Puis il faut prier aussi pour les moines pendant les offices de nuit. C'est pas facile, ça. Que de moines s'endorment dans leur stalle, ça arrive, des fois ils sont épuisés. Puis il y a la lâcheté aussi, les diverses formes de vaine gloire, toutes les niaiseries. Se penser le centre du monde. Quand on va disparaître, on sera poussière. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. On disait ça au mercredi décembre. J'aimais bien ça, moi. Oui, nous sommes poussière. Nous allons retourner en poussière. Mais on sait bien que dans tout le restant de la liturgie du mercredi décembre, on nous apprend que Dieu nous aime. Et que pour aimer Dieu, il suffit de répondre à son amour. Hein? Il y a l'orgueil puis les pensées de blasphème aussi dont parle Saint Jean Climac. Ça vient souvent du démon, ça. Puis la douce et l'innocente simplicité, très simple. Hein? Puis l'humilité aussi, cette vertu qui détruit tous les vices. Savoir que le cerveau qu'on a, c'est pas nous qui l'avons fait. Les yeux qu'on a, c'est pas nous qui nous les avons donnés. La voix qu'on a, c'est pas nous qui nous l'avons donnée. Et tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Reste à exercer notre volonté en union avec lui pour se servir de ça, sa plus grande gloire. Puis le discernement des pensées, des vices et des vertus. Il termine un peu avec ça. Dans le dernier chapitre sur la distinction des vices, Saint Jean Climax se demande ce qu'il faut penser de la liste des 8 vices capitaux. Puis s'étend là-dessus. Mais il distingue soigneusement par rapport aux vices et aux vertus les états respectifs des débutants, puis des progressants qui sont au milieu de l'échelle, puis les parfaits qui occupent les derniers échelons en haut. Alors on va trouver dans l'échelle sainte de Saint Jean Climac des conseils éprouvés pour se libérer du vice puis progresser dans la vertu. Puis on remarque enfin l'importance prépondérante que Saint Jean Climac donne à la lutte, une lutte contre les vices dans le développement de la vie chrétienne. À ce point de vue, il est tout à fait dans la tradition monastique de l'Orient. Et lorsque l'âme s'est délivrée de ses mauvaises tendances puis qu'elle a triomphé de ses passions, elle peut entrer alors comme un beau bateau là, dans le port si reposant, dit-il, de la solitude. De la solitude, oui. Alors, conformément aux idées de son temps, bien, Saint Jean Climac met le moine solitaire au-dessus des cénobites. Hein, et lui, dans cette époque, les ermites étaient au sommet. Mais comme je vous dis, il y a encore beaucoup d'ermites. Puis de toute façon, des ermites. Montréal est rempli d'ermites qui s'ignorent. C'est des gens qui sortent le soir et qui vont dans des clubs se chercher quelqu'un pour avoir quelqu'un dans leur lit. Et ce sont des ermites qui trouvent leur absolu dans la luxure et la drogue et la bêtise. Ils sont pris dans la tyrannie du plaisir. Je vous répète le titre de ce livre, La tyrannie du plaisir, de Jean-Claude Guibaud, qui n'est pas un catholique, et qui nous parle un peu de tout ça, à sa façon, de façon merveilleuse. C'est un best-seller. Il nous fait comprendre à un niveau qui n'est pas celui de Saint Jean Climac, qui est un autre niveau, mais un niveau moderne, en dehors des préoccupations de l'Église, la platitude de notre vie niaiseuse dans laquelle une grande partie d'entre nous sont plongés. Mais les vrais ermites à Montréal, c'est souvent des gens qui s'ignorent, c'est-à-dire des gens qui vont à l'Église tous les jours et qui prient, qui pratiquent l'oraison seuls, et qui mangent seuls, et qui vivent seuls, et qui n'ont presque plus d'amis, qui sont rendus à 55, 60 ans, ils ont tout perdu, ils restent seuls. Or, la prière, elle exige une préparation, et l'âme doit se présenter devant Dieu, dit-il, revêtue de la robe de l'oubli des injures. Et il enseigne une méthode qui est une pratique très simple. Il dit, quand tu pries, ne recherche pas de mots compliqués. Car le bégaiement simple et sans variété des enfants a souvent touché leur Père des cieux. Le bégaiement, c'est-à-dire toujours répéter, mettons, Jésus, amour. Jésus, amour. Ou simplement le nom de Jésus. Jésus. On appelle ça un mantra aujourd'hui. On appelle ça la méditation transcendantale. On appelle ça toutes sortes d'affaires. Moi, je vous ai parlé de John Maine, le 30 décembre dernier. Je vous ai parlé que cet homme a créé un mouvement mondial de la méditation chrétienne. Ça existe à Montréal et on enseigne comme ça cette méditation au Centre Unitas. Vous pouvez téléphoner au Centre Unitas et apprendre simplement cette méthode très simple. Saint Jean Climac dit bien, ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de peur que ton esprit ne se distrait à chercher des mots. Un seul mot du publicain apaise à Dieu, et un seul cri de foi sauva le larron. Hein? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. La loquacité, le flot de paroles, si vous voulez, dans la prière, disperse souvent l'esprit et le remplit d'images, alors que la répétition du Saint Jean Climac d'une même parole, ordinairement, le recueille. Si une parole de ta prière te remplit de douceur ou de componction, demeure donc sur elle, car alors notre ange gardien est là, priant avec nous. Puis dit, le commencement de la prière consiste à repousser par une seule parole les pensées, au moment même où elles se présentent. L'état intermédiaire consiste à maintenir notre pensée dans ce que nous disons ou pensons. Et sa perfection, c'est le ravissement dans le Seigneur. Hein? Oui, ceux qui la pratiquent deviennent comme ravis dans le Seigneur. C'est si simple au fond, si simple. Et alors, dans son beau livre, la prière parfaite pour Saint Jean Climac, c'est celle des ermites. Mais résumant la doctrine de plusieurs auteurs anciens, Saint Jean Climac définit ainsi tout ce qu'on peut appeler la perfection chrétienne. C'est l'état du chrétien qui a purifié sa chair de toute souillure, il l'a rendu en quelque sorte incorruptible, comme il le sera après la résurrection. C'est celui qui a élevé son cœur au-dessus de toute créature, et soumis tous ses sens à la raison, qui pratique toutes les vertus, car si une seule lui manque, bien cette perfection n'est pas réalisée en lui. Enfin, c'est celui qui se tient sans cesse en la présence de Dieu dont je vous ai souvent parlé. Et son âme est dans un état supérieur à la vie mortelle, hein? Son âme est insensible à tout ce qui pourrait émouvoir ses passions. Et voilà, il a atteint le bonheur et le dévouement et le don de lui-même aux autres. Oui, il peut pratiquer la charité et être heureux en union avec le Christ, car il reconnaît le Christ parmi les plus pauvres et les plus délaissés autour de lui.